Non, ça, non. Le taux de l'eau, évidemment, ça change beaucoup de choses. Je comprends que vous avez fatigué. Ce que je veux dire simplement, c'est que le jour de l'examen, je ne vous connaîtrai pas plus que maintenant, donc vous pouvez ne pas assister à mes cours, ça ne me dérange absolument pas. Alors, on y va. Donc, j'avais dit que nous en étions en relation nippo-coréenne, puisque finalement, j'élague un peu toute la partie consacrée à la Corée elle-même, pour me recentrer très malheureusement sur le Japon, et après avoir dit que les relations sont anciennes, qu'elles sont fondamentales, puisqu'elles font passer à l'époque de Yayoi le Japon dans une nouvelle étape, j'aime pas trop cette vision progressiste, mais peu importe, de civilisation, c'est-à-dire agriculture, fer, bronze, etc. Elles sont donc anciennes, elles sont fondamentales, et ce sont aussi des relations, avais-je dit, donc empreintes d'une certaine inégalité, notamment entre la cour du Yamato et le royaume de Kudala, et j'en étais à cette fameuse controverse qui agite encore un peu les esprits, hein, en tout cas à la fin des années 90, je sais plus là trop en 2009, mais assez récemment encore, sur l'éventuelle existence d'une colonie de Mimana, sous prétexte que Léon Choki a écrit une ligne là-dessus. Mademoiselle, vous vouliez dire ? D'accord. Alors, donc je finis avec ça. J'attends que ces messieurs, parce que sinon je fais allègrement sortir ceux qui ne seraient pas tout à fait. Voilà. Concentrés. Et après Mimana, voilà, j'en étais à cette idée que, enfin, j'allais arriver à cette idée avant de vous quitter la dernière fois, que le Japon, dans les relations entre le Japon et la Kikajin, et la Corée, vous devez absolument avoir à l'esprit le fait que pendant des siècles, au moins de la fin du 4e siècle, apparition de la cour de Yamato jusqu'au 8e siècle environ, donc ça fait pas mal de temps, il y a eu donc un certain nombre de personnes venant du continent, c'est-à-dire de la péninsule coréenne, à s'installer au Japon. Ces gens-là, on les appelle des Kikajin. On les appelle, quand je dis « on », c'est-à-dire les auteurs du Nihon Shoki, donc c'est un terme assez vieux, en fait, que celui de Kikajin, par lequel on désigne ces immigrés coréens. Alors vous choisissez entre émigrés, immigrés, migrants, peu importe, enfin ces gens qui se déplacent de Corée, qui sont donc des gens de langue coréenne, de culture coréenne, c'est-à-dire en fait de culture aussi chinoise, bien sûr, et qui vont s'installer au Japon. Alors pourquoi s'installer au Japon? Alors je vous ai dit que pendant des siècles et des siècles, il faudrait bien le dire jusqu'au 19e siècle, en fait peu de gens s'intéressent au Japon, il n'a pas de position stratégique particulière, pas de richesse particulière, et donc quand il veut mettre tout le monde à la porte comme il l'a fait au 17e siècle, il le peut d'autant plus aisément qui n'intéresse personne. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai, qui n'intéresse personne pour de multiples raisons. Pourquoi ces Coréens, entre la fin du 4e et donc le 8e siècle au moins, se déplacent-ils vers et s'installent-ils dans l'archipel du Japon? En fait, je vous ai dit que cette péninsule coréenne était truffée de conflits de toutes sortes qui prenaient des formes militaires. Et en fait, c'est constamment une situation, je dirais, d'instabilité dans cette péninsule. Et il semble que la raison majeure, en fait, de ces déplacements de Coréens vis-à-vis du Japon, c'est tout simplement le fait d'y trouver refuge. Voilà, d'y trouver refuge dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, d'une part, on fuit ses ennemis opposants locaux de la péninsule coréenne. Et évidemment, quand on parle de guerre, il faut s'attendre à des inimitiés mortelles. Donc on a une bonne raison de s'échapper. Et d'autre part, j'avance ça, je ne l'ai pas lu, mais ça tombe un peu sous le sens. Et d'autre part, le fait que quand ils arrivent en Corée, au Japon, ces gens qui ne sont pas n'importe qui, ce n'est pas la plèbe coréenne qui se déplace, c'est généralement l'élite des chefs de clan coréens qui viennent avec leur entourage s'installer au Japon, ils sont accueillis de façon assez favorable, retenez ce point d'histoire, assez favorable, et occupent des places dans le système des B, ce ne sont pas forcément des OG, ils occupent des places dans le système des B, on avait parlé de script coréen, je ne vous avais pas dit que c'était dans le cadre de ces migrations, c'est dans le cadre de ces migrations que certains B sont spécialisés dans l'écriture, et certains B en fait sont composés par des Coréens, parce que en fait on se sert des connaissances qu'ils ont de la culture chinoise, la Corée étant elle aussi imbibé de civilisation chinoise à partir du moment où ces royaumes se constituent. Donc, représentant en quelque sorte la culture continentale, ils sont bien accueillis au Japon, bien intégrés, parfois un peu disséminés ici et là, tout de même. Mais l'accueil qu'on leur fait explique sans doute la continuité et l'importance de ces migrations. Impossible de vous donner des chiffres, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste de la période, et puis en plus je pense que n'importe quel autre historien ne pourrait pas vous donner de chiffres. On avait vu le Japon, 6 à 7 millions d'habitants au 8e siècle, combien de, en termes de pourcentage y a-t-il de gens issus une, deux ou trois générations de ces migrations? Franchement, je crois que personne ne peut vous donner les chiffres. Ce qui est un peu troublant tout de même, on y reviendra très peu, mais je vais vous donner quand même un exemple vivant de ces migrations coréennes, c'est que parfois donc cette intégration des Coréens dans la société japonaise a pu aller très loin, puisque le fondateur de la ville de Heian, donc quelqu'un qui porte le titre de Tenno, puisqu'en fait c'est à la fin du 8e siècle, donc le titre de Tenno est déjà en usage, Kanmu Tenno, dont on reparlera plus tard pour être le fondateur de la capitale de Heian, que vous connaissez tous sous le nom de Kyoto, mais donc Heian était son ancien nom, est d'origine coréenne. Sa mère était coréenne. Bon, c'est pour vous dire que ces Coréens donc occupent une place, peuvent occuper une place très importante, et puis il y a des gens qui ont débattu pour savoir si des grandes familles que vous connaissez pas, donc là c'est pas la peine de noter le nom parce qu'on parlera largement de cette famille, mais ceux qui donc tous les japonais présents dans la salle les connaissent, les Fujiwara, on s'est demandé s'ils n'étaient pas coréens par hasard. Donc c'est vraiment pour vous dire que la question de ces migrations des Kikajin est essentielle pour comprendre la formation donc de la civilisation japonaise, pas de civilisation japonaise pure, entre les migrants de Yayoi, les migrants de Corée et puis tous ceux qui précèdent. C'est vrai que pendant ces premiers siècles-là, dont nous occupons, la population japonaise mixte, pour pas dire métisse, pour reprendre un terme à la mode chez les historiens aujourd'hui. Hein. Pas moi qui utilise le terme. Alors juste un mot sur Kikajin. Vous faites attention, j'ai dit qu'effectivement on désignait donc dès le Nihonshoki ces immigrés coréens par le terme de Kikajin. Je vous ai pas dit ce que cela voulait dire, et surtout je vous ai pas dit, je vais commencer par là, par vous dire que on désigne par Kikajin à l'époque tout immigré qui vienne de Corée ou qui vienne de Chine ou qui vienne d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas spécifiquement coréen, mais comme il se trouve que une bonne partie d'entre eux étaient coréens, finalement le terme est presque synonyme aujourd'hui, mais à l'origine le Nihonshoki comprend un tas d'autres gens que les coréens dans ce terme de Kikajin. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire, et en fait le terme s'applique en gros de cette fin du 4e au 8e siècle, tous ceux qui entrent dans l'archipel sont désignés comme étant Kikajin. Deuxième chose, le terme est assez péjoratif tout de même, même franchement péjoratif, il faut quand même le dire, péjoratif parce que en fait il signifie donc Jin, ce sont ceux qui, donc c'est Hito en fait, hein, les gens qui, ceux qui, Kika, qui ont changé de pays d'allégeance. Qui ont changé, en fait c'est qui ont changé d'allégeance, mais il faut entendre qui ont changé de pays d'allégeance. Bref, qui étaient coréens avant de passer dans l'archipel et qui sont nationalisés, ont pris la nationalité. Enfin, évidemment, là j'emploie des termes contemporains qui ne conviennent pas, il n'y a pas de carte d'identité à l'époque, hein, et on n'est pas inscrit. Enfin, pas tout de suite en tout cas, on n'est pas inscrit. Il y a des registres de gens, de personnes étrangères quand même, qui vont finir par se constituer au Japon. On va distinguer les gens d'origine étrangère et les gens d'origine locale. Mais bon, cela dit, nationalité, enfin, rien à voir avec le civisme contemporain. Des gens qui ont changé de pays d'allégeance, le terme est péjoratif. C'est tout ce que je voulais dire sur ces Kikajin. Monsieur.
Mais les Japonais, ils acceptaient tous ceux qui venaient de Chine et après ils acceptaient.
C'est amusant la question que vous me posez, elle me désarçonne un peu parce qu'elle est très contemporaine en fait. Elle est très contemporaine. Le problème, en tout cas tel que je, pour le peu que je connaisse de cette époque, le problème ne se pose pas de cette façon-là. Le Japon existe, on cherche effectivement à se distinguer par un tas de choses, par exemple par l'appellation de Nihon en écrivant l'histoire du Japon de l'étranger. On accueille de fait, par ailleurs, des gens que l'on désigne de façon plus ou moins péjorative, que l'on, donc je disais, consigne au bout d'un moment sur des listes, mais de politique d'immigration, si je puis dire, je n'en vois aucune. Vous voyez en quoi je suis juste gênée par, la formulation contemporaine de votre question. Pas de politique, de choix. On accueille cela et pas cela. Ça ne se pose pas comme ça. Voilà. Et de fait, on accueille ceci et cela.
Ah non,
non, non, surtout, monsieur, pas les Aïnous. J'ai passé une demi-heure à vous dire que les Aïnous, on ne sait rien d'eux avant le 12e, 14e siècle. Surtout. Bon, Mais monsieur est très courageux, ce dit en passant. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, là, j'espère ne pas avoir été trop violente. Non, pas de haine. Ces gens du Nord-Est sont des Nishi. Ce sont sans doute ce que nous appelons aujourd'hui des Japonais. Voilà. Je ne reviens pas sur cette partie du cours. Alors, non, mais je suis sérieuse. Hein, je ne veux pas stigmatiser les uns les autres. Donc, j'insiste pas, parce que sinon, j'ai tendance à être un peu lourde parfois, mais que personne ne m'en veuille quand je réponds non, quoi. Alors, voilà, donc ça, c'était important de parler des Kikajin. Ce qui est très important, c'est de savoir, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le moment ou jamais de vous dire que tout ce qui concerne l'agriculture, donc les techniques, il y en a pas, elles ne sont pas excessivement développées. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire pour cette époque, jusqu'au 12e, 14e siècle, tout reste assez rudimentaire. Les techniques d'agriculture, donc la maîtrise de l'écriture chinoise, la médecine chinoise, les conceptions bouddhiques dont on va parler justement là dans une seconde, qui viennent de Chine, en vrai d'Inde, mais qui sont passées quand même par la Chine avant d'arriver au Japon, tout cela est apporté en fait, développé, mûri, réfléchi, etc. par les Coréens, alliés bien sûr aux Japonais qui ne restent pas en dehors de cette civilisation continentale qui débarque chez eux. Donc tout ce dont on a parlé en introduction, je vous avais dit attention, c'est la période antique, le moment où jamais, où les Japonais sont à l'école de la Chine. Sans doute ne vous avais-je pas précisé que dans les fêtes, en dehors des ambassades où les Japonais se déplacent directement en Chine, dans les fêtes, en fait, et encore pas de pourcentage possible, l'essentiel de ces apports, concrètement, en fait, viennent de ces Kikajin qui viennent, qui s'installent, qui montrent, qui font école au Japon. Voilà, et qui apportent en fait une autre situation que la leur. Bien souvent. Alors, justement, il me reste juste un point à évoquer de ces relations entre les Coréens et les Japonais, c'est le bouddhisme, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui caractérise pourtant notre période ancienne. Je ne vais rien vous en dire sur le plan théorique, je dirais, dans ce cours-là, puisque j'ai décidé de... Je distille mes informations en fonction de critères pédagogiques. Je vais simplement vous dire comment il arrive officiellement, c'est-à-dire de manière connue au Japon et dans le cadre de relations diplomatiques entre deux puissances, donc notamment celle du Kudala, bien sûr, celle de Kudala et notre cour de Yamato. Alors en fait, d'abord, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que sans doute, monsieur, je ne vais pas vous sortir, ça va m'arracher le cœur, franchement, et j'hésiterai pas pourtant. Donc, première version et ensuite je vous sors, d'accord? Donc, ces relations entre... donc le royaume de Kudala et la cour de Yamato ont eu pour effet, entre autres, de faire connaître officiellement le bouddhisme aux Japonais. Mais attention, voilà, c'était là où j'en étais. Attention, il est possible, même si on n'en a strictement aucune trace, il est fort possible, il est même tout à fait imaginable que les Japonais, c'est-à-dire les gens qui constituent la cour, étaient déjà au courant de cette religion-là. Parce qu'en fait, elle arrive en Chine au 1er siècle, comme on le verra un peu plus tard. Donc, elle est déjà bien installée. Elle arrive un peu plus tard, donc, en Corée, au 4e siècle. Et comme les Japonais, vous savez, ont des relations... pas étroites, mais ont des relations quand même avec la Chine et la Corée, forcément ils connaissent cette religion. Seulement nous, on n'a aucune trace avant le 6e siècle de cette introduction donc, du bouddhisme au Japon. Alors, il se trouve que c'est en 538, donc voilà deux dates vraiment à retenir, ou en 552, on ne sait pas laquelle de ces deux dates est la plus exacte. Il y a deux sources, ou plutôt il y a deux versions qui nous présentent ces deux dates. Et les deux ne trouvent pas de troisième pour prendre parti, pour elle, en fait, on en est là, ou bien en 538, ou bien en 552, dans le cadre de relations officielles entre la cour de Kudala et la cour du Yamato, celle-ci, donc la première, la cour de Kudala, présente au souverain de la cour du Yamato une religion dont ils sont censés ne jamais avoir entendu parler et qui leur apportera, leur assure le souverain de Kudala de l'époque, qui leur assure donc en 538 ou 552 que grâce à cette religion, ils auront donc prospérité, sécurité dans leur état. Voilà. Donc ça, c'est la version officielle. Il se trouve que pour, je dirais, concrètement, son propos, le roi de Kudala de l'époque envoie en même temps que cette information, connaissait donc cette religion que l'on appelle le bouddhisme, il envoie des textes bouddhiques, je vous dirai un peu plus tard ce que signifie un sutra, je vous écris quand même le mot au tableau pour l'instant, mais je vous dirai exactement ce que ça veut dire plus tard, il envoie donc des sutras bouddhiques, on va dire des textes bouddhiques, et il envoie également une statue, voilà des statues, alors que nous sommes immergés là depuis... depuis quelques années, là, et puis alors cette année, ils ont fait forger partout. Entre celle du Bhoutan, celle d'Asie centrale, de Corée, du Japon, il y a des Bouddhas partout. Mais en fait, à l'époque, au VIe siècle, c'est quelque chose d'exceptionnel que ce Bouddha, que cette statue qui arrive au Japon. On n'en a jamais vu, en fait, semble-t-il, ou en tout cas, on en a vraiment très peu vu, et pas de manière officielle. Donc, le roi de Koudala envoie l'information sur laquelle il existe une religion qui peut avoir des effets positifs. Il donne des sutras bouddhiques en même temps, donc tout ça se fait dans le cadre de relations diplomatiques, et il offre une statue. Oui, je vous dis, pour vous dire un peu, peut-être, je ne l'ai pas dit aux autres, mais bon, je le dis là parce que sinon je vais trop perdre de temps à pas dire. C'est pas la peine de noter, je vous le rappellerai. En fait, cette pauvre statue va être noyée comme si elle était pestiférée. C'est pour vous dire à quel point elle a fait l'effet au Japon d'époque. Hein. Donc je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Elle a subi un sort, puis après elle a été récupérée. Enfin bon, bref, quoi. On l'a vraiment traitée comme s'il s'agissait d'un objet de magie noire. Alors, cette statue, juste, elle est en bronze. Matière noble de l'époque, et dorée, donc recouverte d'une couche d'or, et elle représente le Bouddha historique. Donc je vous dirai plus tard ce que veut dire le Bouddha historique, j'ai déjà fait la distinction entre le Bouddha historique et tous les autres, qui porte le nom en japonais de Shakyamuni. Donc c'est Shakyamuni qui est représenté sur cette statue qui est envoyée par le roi de Koudala en 538 ou bien en 552, ce qui, soit dit en passant, représente deux empereurs différents. Hein. On a deux Hokimi différents là, en 558 ou 552. Donc en fait, on ne sait pas lequel de ces deux Hokimi est l'importateur. Voilà, alors... il faut juste s'interroger sur les raisons pour lesquelles le roi de Koudala a fait ainsi connaître au Hokimi du Yamato cette philosophie religieuse, sans doute pour acquérir ponctuellement une aide de celui-ci. Donc en fait, c'est vraiment, je parlais de relations diplomatiques, on offre en cadeau, en quelque sorte, la connaissance d'une autre religion, inconnue au Japon, et presque inconnue au Japon, et pour obtenir, en fait, je ne sais quel appui militaire à l'époque de la cour du Yamato, dont, vous le savez, donc, les gens de Koudala sont alliés. Voilà. C'est pas rien, je dirais que ces relations entre la Corée et... monsieur, vous sortez. Et voilà. Oui, vous sortez, monsieur. Je ne vais pas vous décrire, parce que... Oui, vous sortez, je suis désolée. J'arrête sur ces relations nippo-coréennes et leurs effets. Je crois que vous avez bien compris que c'est important entre l'introduction du bouddhisme, l'introduction de toute la culture occidentale, de toute la culture continentale. Voici donc les partenaires essentiels du Japon et ces gens-là, donc je vous renvoie un peu à ce que je disais en tout début de l'année, ces gens-là, en fait, on a mis au jour, on met de plus en plus au jour leur importance dans la civilisation japonaise, puisque de plus en plus les historiens, l'historien de la civilisation japonaise s'ouvre quand même. Et voilà que, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, je crois, monsieur, oui, j'entendais c'est fou, en plus des gens, je ne vais pas dire l'institution, mais ils ont vraiment la plus grande institution d'histoire au Japon, qui disait entre trois tasses de thé, quoi, ce qui me paraît quand même incroyable. Parce que, bon, il y a les discours que tiennent les gens officiellement, puis après, il y a les discours qu'ils ont, eux, de façon. Enfin, oui, il faudrait peut-être intégrer la Corée quand même dans notre vision du Japon antique. Enfin, ce qui peut paraître évident, quoi. Et voilà donc que tout le monde s'y met. Et puis c'est vrai que la Corée est très à la mode en ce moment. Au Japon, enfin, je ne sais plus, là, depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds, mais pendant que j'ai metté encore les pieds. Le discours coréen est extrêmement connu. Voilà, donc, très concrètement parlant, tous ces débats sont encore très étroits, enfin, sont encore, ont encore leur importance au Japon. Voilà. Alors, tout cela dure, je dirais, tout ce que je viens de vous dire, le bouddhisme, les relations entre Koudala et le Japon, l'introduction de la culture continentale, tout ce schéma, en fait, que j'ai proposé des relations nippo-coréennes, dure jusque la fameuse année 663, dont je crois vous avoir parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe en 663? En fait, une banale affaire diplomatique, enfin, si je puis dire, c'est la date Hakusuki Noé. Je ne vous ai pas parlé de Hakusuki Noé. Non, Kinoé. Donc, Hakusuki Noé, oui, il ne faut pas se tromper. En fait, c'est le lieu, c'est le nom d'un lieu qui se trouve au large de la Corée, et c'est la date d'une bataille, donc, qui vient, je dirais, clore 3 années de conflit entre d'une part les gens de Corée et de Chine, et d'autre part donc le Japon qui, comme d'habitude, je dirais, met son nez dans les affaires du continent. Donc en fait, le conflit dure de 660 à 663, je répète, et se termine par une bataille navale au large de la Corée, à Hakusukinoe, qui est perdue par les gens du Yamato et par le royaume de Kudala qu'ils soutenaient. Donc le Yamato et Kudala perdent cette bataille navale face donc au royaume de Shilagi, allié ponctuellement en fait aux troupes chinoises des Tang. Donc il y a toutes sortes de combinaisons possibles, hein, entre les royaumes coréens d'une part, entre les royaumes coréens et le Japon d'autre part, et entre bien sûr les royaumes coréens et la Chine d'autre part. Donc le Yamato et Kudala perdent à Hakusukinoe face à Shilagi et au Tang. Et à partir de là, en fait, tout change, je dirais. Et donc c'est le point de point final, je dirais, de mon exposé sur les relations nippo-coréennes, parce qu'à partir de là, en fait, le Japon va cesser totalement, en 663, de s'immiscer dans les affaires coréennes de la péninsule. Donc plus de relations d'émission, d'interventionnisme, plus d'expéditions militaires, plus de relations illégales, en tout cas sur le papier. Entre le Japon et la Corée, mais vous faites attention, les relations entre les deux pays se maintiennent tout de même. Les relations entre les deux pays se maintiennent de toutes sortes. Alors d'abord, je voudrais juste vous dire une chose. Quand je dis les relations entre les deux pays, c'est que donc l'archipel constitue toujours une unité à part entière, mais il faut quand même que vous sachiez que dans les années 660-670, et en particulier donc en 676, la péninsule coréenne est réunifiée. Donc ça, il faut que vous le sachiez, et ça explique donc que je ne parle plus que d'une entité à partir de 676. Donc 676, à la suite de ces faits militaires, je vous passe les détails. Donc une fois le royaume de Kudala et le Yamato, le royaume de Kudala évincé, détruit tout simplement, la cour du Yamato renvoyée chez elle à ses propres affaires, il y a d'autres conflits militaires qui se passent, et cela donc prend fin lorsque finalement le royaume de Shilagi réussit à réunifier toute la péninsule coréenne, et à partir de là, en fait, la péninsule coréenne sera définitivement, presque définitivement réunifiée. Donc il y a bien plus qu'une entité politique dans la péninsule, de 676 jusqu'en 1945. Et ça ne veut pas dire évidemment que c'est le royaume de Shilagi qui a donc dominé la péninsule jusqu'en 1945, mais ça veut dire qu'à partir de 676, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur. Et avec cet interlocuteur, donc coréen, les Japonais gardent des relations. Donc, des relations diplomatiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se déplacent de part et d'autre dans le cadre d'ambassades officielles. Donc ça, c'est très important. Et dans toute l'histoire du Japon, soit dit en passant. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Des fois, je confonds un peu ce que je raconte d'un cours à l'autre, ce qui est la meilleure garantie pour vous d'avoir la même chose en termes de révision. Mais est-ce que je vous avais parlé de Tsushima ? Oui. Ah oui, ben alors voilà. Donc, Tsushima, c'est donc... voilà, le Japon... Donc, Kyushu est plutôt là, en fait. Kyushu est plutôt là. Ben, voilà. C'est un archipel composé de deux îles principales, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui donc se trouvent, c'est vraiment un relais fondamental de ces relations nippo-coréennes et même un point fondamental de l'histoire du Japon, que ces îles, donc cet archipel de Tsushima, que vous trouverez dans n'importe quel du Japon, qui aujourd'hui appartient au Japon officiellement, et qui en fait va toujours rester, toujours, le point de passage entre donc, tout ce qui vient de la Corée et même de Chine et le Japon. Donc Tsushima est essentiel. Et par exemple, au 7e siècle, au 8e, etc., etc., on va importer un tas de choses. Donc, outre les gens qui y passent, on importe via cet archipel de Tsushima un tas de choses. Donc, pour vous donner des exemples, c'est un petit bout concret de ce que peut être ces choses que l'on importe au 7e et au 8e. Quand on continue malgré tout, donc, même s'il n'y a plus d'interventionnisme japonais, à avoir des relations avec la péninsule de Corée. Donc, d'un côté, ce qui vient de Corée, ce sont beaucoup des brocarts, donc des tissus, c'est-à-dire des tissus qui sont faits de telle sorte qu'ils intègrent des fils d'argent ou d'or. Et du côté japonais, donc là j'adore dire des choses comme ça parce que en fait vous apercevez que tout ce que vous connaissez vous du Japon contemporain, enfin en matière d'artisanat ou de culture artistique, en fait, date de bien longtemps. D'abord des éventails, donc des éventails japonais qui au 7e, 8e et au-delà sont vendus, des perles japonaises également, donc des objets en perles, et enfin des paravents japonais, voilà des objets donc, dont vous devez savoir, de temps en temps je vous ferai part comme ça de choses extrêmement concrètes, donc vous devez mettre une date sur laquelle vous devez pouvoir mettre une date d'existence. Voilà, j'ai fini avec ma péninsule coréenne. J'abandonne ici mes Coréens et puis nous passons à une deuxième étape, je dirais, de ce cours d'introduction sur l'époque antique, le point 2. Ah non, c'est pas à partir de ce moment-là. Je pourrais pas vous dire quand les paravents apparaissent. Ni la culture des masses, je peux pas vous dire malheureusement. Vous devez au moins pouvoir vous dire qu'au 7e siècle, il y avait ce genre de liens, échangés en plus. Et assez. Donc je récupère tout le monde. Hein. Ce qui existait au moins depuis le 7e siècle, c'est-à-dire en fait qui était assez sophistiqué sur le plan artistique et technique pour plaire à des étrangers. Ça, c'est très important. Voilà. C'est un peu comme les sabres japonais dont je parlerai, le fameux katana japonais apparaît au 10e siècle, mais sera vendu à partir du 14e, c'est-à-dire pas trop tard, et inondera ensuite, même les Américains adoreront les katana japonais. C'est-à-dire que, bon, mais après toute l'histoire des objets, ça, c'est pas. Enfin, là, c'est un peu. Bon, je ne me suis pas penchée là-dessus. Donc très important, une toute petite introduction pour ce point 2. D'abord pour à la fois m'excuser, me justifier, si je puis dire, en tant que pédagogue, pour vous dire que nous sommes, ça fait pas mal de temps que nous sommes sur le 7e siècle, nous quittons enfin là, à l'heure présente. On va rester pas mal de temps sur le 8e, 9e, 10e, mais comme je le disais aux autres étudiants la semaine hier même, ne vous inquiétez pas, il est normal, c'est pas une erreur de ma part, ou c'est pas parce que je traîne, ou c'est pas parce que je parle trop, ou, d'ailleurs cette année je parle pas trop, enfin je crois que je fais pas trop de digressions, j'en suis très fière. C'est tout simplement que c'est un choix, c'est-à-dire que une fois que vous avez la base, tout se déroule, enfin évidemment si vous avez un guide, tout se déroule de façon assez facile. Dans votre, dans la constitution de vos connaissances sur le Japon classique. Et au début, ça prend un peu de temps, parce que je dois vous expliquer ce qu'est le bouddhisme, à quoi ressemble le Japon, c'est quoi un empereur. Puis après, quand je parlerai au 16e ou 17e siècle de l'empereur, vous saurez exactement d'où il vient, ce qu'il est, ou ce qu'il est plus, d'ailleurs, plutôt. Et voilà, donc j'insiste. Sur le fait que c'est bien fait exprès, que je ne traîne pas, que c'est voulu. Deuxième chose, là maintenant, pour passer, donc en fait on passe à un autre stade, je dirais. Vous allez voir qu'à partir de ce point 2, nous rentrons dans un Japon que vous connaissez peut-être mieux, enfin plutôt dont l'image vous semble moins étrangère, avec des empereurs, une cour. On va commencer à avoir cette fameuse situation de Heian, avec des femmes avec des cheveux longs, des choses qu'on voit ici à droite et à gauche. Je sais que c'est pas fondamental, bien sûr, mais c'est des images qu'ont les Japonais en tête. On va même parler de samouraï, enfin de choses, à partir de maintenant on va parler de choses qui vous sont plus familières quand on parle de l'histoire du Japon, mais vous saurez au moins comment elles se sont peu à peu constituées. Alors, j'arrête de trop, comprenez bien, c'est important, hein, c'est important que le fait de savoir qu'à partir du début du 8e siècle, on entre un peu dans un autre Japon. Alors, on va d'abord donner quelques dates quand même de points de repère, en ce qui concerne, je dirais, ce qui fait ce nouveau Japon, c'est toujours ces relations entre le Japon et la Corée, donc quelques mots, en un quart d'heure, j'espère, sur les ambassades en Chine, c'est le point 2.1, et puis ensuite, je vous dis, quels sont les effets de ces ambassades en Chine, et comment... Ça ne serait pas juste par rapport à l'autre monsieur que je ne fasse pas sortir tous ceux qui me gênent. Hein. Et comment, en fait, cette cour du Yamato, enfin, ce que les historiens appellent la cour ou l'état du Yamato, au bout d'un moment, à partir du 8e siècle, on va appeler ça, c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes gens, les mêmes clans, les mêmes logiques, mais leur mode de pouvoir est différent, et puis au bout d'un moment, on va appeler ça l'état régi par les codes. Donc je vais vous expliquer ce passage assez délicat et essentiel du Japon. Alors d'abord, juste un mot sur les ambassades en direction de Chine, puisque finalement, ce sont encore ces ambassades qui font avancer le Japon en ce sens-là, donc d'une sinisation toujours plus poussée. Puis le 8e siècle, c'est le siècle par excellence où le Japon est à l'école de la Chine. Alors, quelques dates. Donc là, je vais pas juste quelques dates et quelques personnages, en fait, autour de quelques personnages que tous les Japonais connaissent, enfin, ou en tout cas, dont tous les Japonais ont entendu parler. Sinon, c'est grave, mais oui, j'en suis sûre, au moins au collège et au lycée. Et c'est pas que ça a un intérêt essentiel par rapport à ce que je viens de vous dire, à savoir que ces ambassades jouent un rôle fondamental, mais ces gens-là et ces dates-là sont tellement connus que dans l'initiation de l'histoire au Japon, j'aurais un peu de remords quand même à pas vous donner leur nom. Donc c'est pas, vous n'apprendrez rien de fondamental. Mais en même temps, tous ces gens-là sont très connus. Alors d'abord, une date associée à un personnage, la date de 717, c'est celle d'une ambassade. C'est pas la première. Ah oui, avant. Il faut que vous sachiez qu'au 8e siècle, il y a eu donc 6 ambassades, effectivement parties du Japon vers la Chine. Donc finalement, presque deux fois moins que ce qu'on avait vu pour le 7e siècle. Il y en a moins. Donc 6 ambassades effectivement parties. Et quand je dis effectivement parties, ça veut dire en fait que vous pouvez imaginer qu'il y a eu des ambassades qui ont été prévues, mais qui pour des raisons X ou Y ne sont pas parties. D'accord ? Mais 6 sur lesquelles on soit certaines, donc à propos desquelles on est certain qu'elles soient parties. Et donc elles sont moins nombreuses que celles du 7e siècle. Mais bon, en fait, ça ne veut rien dire, hein, c'est histoire que moins nombreuses. Oui, quand je dis moins nombreuses qu'au 7e siècle, ça ne veut rien dire. Évidemment, si on fait l'histoire du Japon avec un 6e, 7e, 8e siècle, on peut comparer comme ça. Mais pour les Japonais de l'époque, on n'est ni au 7e ni au 8e siècle. Hein. D'accord ? Donc, bon. Donc, qu'est-ce que je disais ? Non, c'est pas ce que je disais. Ce que je disais, c'est que... oui, le chiffre est un peu... Et juste pédagogique. C'est juste pédagogique. Voilà, c'est tout. Comment ? Oui. Apparemment... Bon, c'est bien, on a plusieurs points de vue. Bon, alors, je reviens sur Badal de 717. 717, donc... Oui, parce que pour... Non, mais c'est important que vous sachiez, mais excusez-moi. Pour les Japonais, on n'est pas au 8e siècle. Hein. Là, c'est une reconstitution a posteriori selon des normes occidentales de ce qu'est l'histoire du Japon. Pour eux, en fait, ça continue toujours. Ils envoient toujours des ambassades et ils font pas de distinction entre celle du 7e et celle du 8e. Non, c'est vraiment important de dire ça. Ça veut dire que tout ce que je vous raconte est quasiment faux. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais au début. C'est juste une façon de raconter l'histoire du Japon. C'est pas ce que vivent les gens à l'époque. Les gens à l'époque, ils font pas de distinction. Voilà, moi je dis on passe là au début du 8e siècle dans une nouvelle ère, mais ça c'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est presque faux. C'est presque faux. Voilà, enfin méditer. Hein. Cela dit, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est faux. Hein. Alors, 717, Abe no Nakamado. Alors je crois que les donc d'abord j'écris parce que sinon je vais me tromper. Donc c'est un M, hein. Abe no Nakamado. Je vais peut-être le réécrire, je ne sais pas. Voilà. Je vais vous donner ces dates biographiques que, bien sûr, vous n'allez pas retenir. Ça serait ridicule. 698, donc il est né en 698. Il meurt en 770. Et ce monsieur, alors je suppose que tous les Japonais le connaissent, parce qu'ils ont des raisons d'en être fiers, de ce Abe no Nakamado, qui part en 717 dans une des 6 ambassades effectivement parties. De l'archipel. Il part en 717, donc en pensant, comme tous les ambassadeurs de son époque, je ne pense pas qu'il ait été le chef vraiment des représentants. Il y a toujours un représentant et plusieurs membres de la délégation. Je ne pense pas qu'il ait été à la tête, mais bon, peu importe. Enfin, toujours est-il que tous ces gens-là, quand ils partent en Chine, évidemment, ils espèrent en revenir. Hein. On ne part pas définitivement, il s'agit bien d'une ambassade. Généralement, ça dure de 1 à 2 ans. Mais voilà que ce monsieur est connu dans l'histoire du Japon pour deux choses. La première, c'est qu'il n'a jamais pu retourner au Japon. Donc, il part du Japon en 717 et il n'en revient pas. En gros, il meurt, enfin, autrement dit, il meurt en Chine en 770. Donc il reste près d'un demi-siècle. Alors je trouve que c'est pas très clair ce qu'on dit à propos de lui. Il est surtout connu pour avoir écrit un poème, ce monsieur, que j'ai voulu retrouver, mais finalement et puis on n'a pas le temps, donc je ne l'ai pas, mais il est surtout connu pour avoir écrit un poème, paraît-il déchirant, où il dit donc son amour pour le Japon et sa colère, sa tristesse, enfin surtout sa tristesse de ne pas pouvoir y remettre les pieds. Il est surtout connu pour ça au Japon, mais ce que je ne comprends pas, c'est que les historiens disent par ailleurs, donc là c'est pas à peine de noter ce que je vous raconte, hein, mais les historiens disent par ailleurs que Abe no Nakamado, il a quand même fait une tentative pour revenir au Japon, qu'il n'y est pas arrivé, donc en fait il est toujours resté en Chine, Moi, je me demande juste, parce que ça, c'est le genre de choses que vous posez quand vous n'êtes pas spécialiste de la question et que vous reprenez ce que disent les autres. Comment se fait-il quand même qu'en 50 ans, même s'il a fait une tentative d'haine, comment se fait-il qu'il n'ait pas trouvé le moyen d'en faire deux ou trois? Bon, je ne sais pas. Comme un personnage dont je vais vous parler bientôt, je ne sais pas. Bon, enfin, il est connu donc pour son non-retour, pour la tristesse qu'il a eue de ne pas être revenu au Japon. Il a quand même eu 50 ans pour revenir. Chine, c'est pas si loin que ça quand même. J'en sais rien. Bon. Alors, oui, vous avez une solution. Super. Non, je veux dire que quand vous lisez un manuel d'histoire, même enfin un histoire écrit par des Japonais, on vous parle de Nakamalo comme étant quelqu'un qui n'a pas pu revenir au Japon. Non, ben non, justement, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'à un moment, je sais plus quelle date, est-ce que je l'ai noté, mais je ne voudrais pas trop comprendre sur lui quand même. Je sais plus. Non, ben non. Ah oui, il a fait naufrage. Enfin, cela dit, au fait naufrage, il est revenu, il aurait pu recommencer, je sais pas. Bon. voilà, en tout cas, pour ce monsieur. Alors, ça, c'est la première chose. Il est connu pour ce fameux poème, Tristesse du pays natal. Et puis, d'autre part, alors, donc, c'est pour ça que. Et ça nous indique, historiquement parlant, que ces gens qui étaient envoyés à la cour de Chine n'étaient pas n'importe qui. Donc ce monsieur-là est un aristocrate, est un noble, on va dire, de la cour. Là, on est en 717, on peut déjà dire de la cour des codes, de l'état des codes. Donc c'est la cour de Yamato, mais qu'on peut appeler maintenant de l'état des codes. Et il est originaire de la région de Nara. Et surtout, il est connu pour avoir été au service de l'empereur Tang du moment. Voilà. Il a même été grand conseiller, on l'a nommé, donc l'empereur Tang de cette époque-là, du 8e siècle, qui s'appelait ainsi, grand silence, voilà, qui a régné donc de 712 à 756, mais c'est pas la peine de retenir ces dates, hein, bien sûr. Ce monsieur, donc cet empereur Tang, l'a nommé Abe Nonakamalo grand conseiller. Et on peut imaginer que, vu donc la philosophie traditionnelle chinoise, selon laquelle c'est un Chugoku, un pays au milieu, que tout ce qui n'est pas chinois, tout ce qui n'est pas rang est forcément barbare, on peut imaginer que ce monsieur Abe Nonakamalo avait des qualités certaines, qui ont été appréciées pour qu'il mérite ce titre-là de la part de cet empereur Tang. Alors, c'est pas le plus grand empereur Tang, vous faites attention, c'est pas le plus grand, les plus grands c'est ceux dont on a parlé auparavant, mais ce monsieur, on dit souvent que son ère, assez longue, 712-756, correspond au rayonnement maximum de la civilisation des Tang. C'est pour vous dire, ça veut dire presque, au plus grand moment de l'histoire de la Chine. Bon, moi je suis pas trop, enfin ça veut rien dire pour moi ces choses-là, mais c'est ce qu'on dit. Hein. Et donc ça veut dire que Abe Nonakamalo avait sans doute plusieurs qualités. Voilà, donc un exemple d'un Japonais qui part, qui ne revient pas, et qui est sans doute quelqu'un d'assez important, parce qu'on n'envoie pas n'importe qui dans le cadre de ces relations qui sont censées donc faire avancer le Japon. On verra un peu plus loin pourquoi. Donc deuxième date, deuxième personnage, cette fois-ci donc c'est nouveau, ça veut dire que les Japonais qui sont présents dans la salle, s'ils n'ont pas suivi mon cours l'année dernière, ne le connaissent pas, parce qu'en fait avant 2004, aucun des Japonais ne connaissait ce personnage, dont la date donc, on va dire... il est mort en 734, donc vous retenez cette date de 734 comme point de repère. En fait, il se trouve que ce monsieur, dont je vais mettre le nom dans un instant au tableau, est sans doute, on ne sait pas, hein, mais il est sans doute parti au cours de cette ambassade de 717. Il porte le nom, plus ou moins sinisé, de Imanali. Alors, I, c'est son nom de famille qui a été sinisé. C'est-à-dire, en fait, on imagine que c'est plutôt un Fuji-I ou un I-no-e. Et les Chinois auraient conservé simplement donc, une des syllabes de son patronyme pour en faire quelque chose de plus chinois quant à son nom de famille, pardon, quant à son nom personnel. C'est un certain Manali. Alors, je disais que ce monsieur-là était un total inconnu enfin, jusqu'il y a très peu de temps, même parmi les historiens japonais, d'ailleurs ça a fait un peu de... on dit de buzz, c'est ça ouais, je crois que c'est ça, j'ai appris le mot là, il y a 6 mois, mais je l'entends tellement que à la radio que je ne peux pas faire autrement. Bref, parce que la découverte qu'on a faite de ce personnage, en fait, date de 2004, ce sont les Chinois qui ont retrouvé, donc, dans cette fameuse ville où se trouvait, autrefois, Zhang'an, soit... la Zhang actuelle, ils ont retrouvé en fait une stèle Je vous ai dit que les stèles, ça faisait partie de ces monuments typiquement chinois, où l'on honore la mémoire de je ne sais quoi, un événement, une bataille, un personnage, le passage d'une religion ou autre. Et ce monsieur Iman Ali a eu droit, sous le règne, d'ailleurs c'était le même règne c'était le règne de cet empereur Tang, a eu droit donc à une stèle pour lui tout seul, où sa nationalité est clairement énoncée. Donc, je vous le dis en japonais, il faudrait le dire en chinois, mais c'est pas à peine de noter. En tant que japonais, il est Kokugo Nihon, c'est-à-dire que son pays, le nom de son pays, Kokugo, c'est le Japon. Une autre façon pour vous de savoir que ce mot de Japon, en fait, au 8e siècle, est installé, et même les Chinois, en fait, l'utilisaient pour désigner les gens de l'archipel, à côté de celui de Loa, bien sûr. Il est donc désigné comme étant japonais, il est désigné comme étant un étudiant, mais attention, ni étudiant. Au sens scolaire du terme, il vient étudier la civilisation chinoise, ni étudiant d'autres sens plus, je dirais, poilus du terme. Non, excusez-moi, là, c'est parce que je suis un peu fatiguée. Enfin, bon, je passe. C'est un peu bizarre. Non, parce que je ne savais pas comment dire ça. J'ai le mot, mais je ne préfère pas. Parce que c'est pas. Bon. Alors, un étudiant au sens noble du terme. En plus, on le désigne comme étant quelqu'un de brillant. Et la stèle nous renseigne sur le fait que cet empereur Tang l'a élevé à titre posthume. Donc, faites attention, à titre posthume. De son vivant, il ne l'était pas. Mais il a montré de telles qualités, en fait, de lettré sans doute, de telles qualités qu'on l'a nommé responsable du bureau des costumes impériaux. Je sais, ça fait toujours rire. Donc, hier, ils n'ont pas lu, mais je me rappelle l'année dernière, tout le monde s'était esclaffé, donc responsable du bureau des costumes impériaux, comme si cette noble tâche, bien sûr, était. C'est une noble tâche en ces époques. Voilà.
Responsable du bureau des costumes.
Pourquoi c'est bizarre ? Non, c'est très important, c'est essentiel. Voilà, après, là il m'échappe tout ça. Chacun va de. Et je suis sûre que ça n'a rien à voir avec les costumes impériaux de l'empereur Tang. Oui, je répète. C'est vivant, c'est bien. Bon, là j'ai de l'humour aujourd'hui. Hein. Enfin. Le monsieur qui est parti ne le sait pas. Donc, je vous demande de faire d'abord, ça sera plus clair. J'ai vu juste un ou deux. Donc, je répète, il est responsable. Mais c'est un détail, c'est juste pour vous dire que la recherche continue, qu'on découvre des choses que même les Japonais ne connaissent pas. Pour parler de quelque chose un peu plus récent que ce Abe no Nakamaro dont on vous ressasse donc l'existence de Manuel en Manuel, c'est tout. Et c'est pas plus important que ça, responsable du bureau, ou chef, c'est pas grave, ça revient au même, du bureau des costumes impériaux. Alors j'ai vu juste un ou deux doigts, une main se lever, ou deux, non, c'est bon, oui, monsieur.
Comment on peut être nommé responsable d'un bureau?
Alors, oui, hier, la question m'a été posée. Je ne suis pas très adepte de tout ce qui est récompense, je ne suis pas tout ça. Mais il me semble bien que la Légion d'honneur peut être reçue à titre posthume.
Oui,
c'est vrai. Non, bah, écoutez, monsieur, moi, j'ai du mal à vous répondre parce que ça ne paraît pas si extraordinaire que ça.
La fonction n'a pas été accomplie,
alors que la Légion d'honneur. Oui, mais. Oui, non, mais là, franchement, j'ai rien à dire de particulier, ça se faisait, quoi, voilà, mais j'ai pas d'idée là-dessus. Alors, on peut revenir à des. Non, je vous remercie de votre question, monsieur. Mais voyez, je crois que c'est pas très important. Ça, moi, ça me paraît pas bizarre. Bah, sachez qu'en Chine, voilà, vous pourrez dire. Ah là, en Chine. Non, ça fait très bien. Non seulement vous pouvez recevoir, je suppose, des titres, hein, par définition. Mais vous verrez au Japon aussi des gens qui reçoivent des titres à titre. Mais des fonctions aussi. C'est ce qu'on appelle savoir quelque chose sur la Chine. Voilà. Bon, voilà, donc j'ai fini sur ce monsieur I. maladie. Donc il est mort de maladie, hein, nous dit la stèle, et bien sûr les Japonais ne se sont pas privés, donc en 2004, d'écrire des articles. D'ailleurs, c'est à partir d'un article japonais que je vous raconte tout ça, puisque ça n'apparaît pas dans les manuels. Alors, 734, deux autres dates, donc une qui, en fait, va être un peu double, parce qu'on ne sait pas si c'est 553 ou 754. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un japonais, je vais vous parler d'un très célèbre chinois de l'époque ancienne, du Japon, qui s'appelle Ganjin. Donc, je vais vous donner les dates. Donc, Ganjin est un chinois. Ses dates biographiques sont les suivantes. Il est né en 688 et il est mort au Japon en 763. Voilà, vous ne retenez pas ces dates biographiques, je répète. Donc, en fait, 753 ou 754, on ne sait pas exactement, correspond à la date à laquelle ce monsieur arrive au Japon. Et il est le symbole, Ganjin, il est vraiment très connu. Hein. Enfin, très connu, je ne sais pas, sans doute moins que Abe de Nakamalo, parce que d'abord, il est chinois, il n'est pas japonais, mais il est très connu chez quelqu'un qui a reçu une bonne formation en histoire du Japon, pour être le symbole des dangers, je dirais, qui menaçaient donc, les échanges entre les gens du continent et les gens du Japon. Parce qu'en fait, ce monsieur Ganjin a quand même entrepris 6 fois le voyage de Chine au Japon pour enfin arriver en 53 ou 54 dans l'archipel. Alors les 5 premières fois ont été désastreuses, à chaque fois c'était des choses différentes. C'est pour ça que quand on parle de l'abbé de Nakamalo, là je ne comprends pas très bien pourquoi il n'a pas insisté, parce que Ganjin, lui, apparemment il a insisté. Une fois c'était les pirates qui l'empêchaient d'arriver au Japon. Pirates, évidemment, vous ne vous étonnez pas de la présence de ces gens-là. Un pirate c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui fait, je dirais, du commerce ou du business sur mer de façon illégale. C'est-à-dire en fait non accrédité par les autorités. Donc évidemment, ça existe depuis que les gens, les hommes, échangent des choses. Il y a toujours des gens pour être interceptés au passage. Donc c'est pas une existence exotique ou, comment je dirais, surprenante que de voir que les pirates, évidemment, sont présents, mais depuis je ne sais combien de temps, dans toutes ces eaux-là. C'est tout à fait normal. Ganjin a affaire à ces gens-là, et c'est une des raisons pour lesquelles il recule. Une fois, c'est la tempête, bon, d'accord. Une fois, je crois que c'était la maladie. Une autre fois, c'est la cour impériale, la dernière. J'ai pas toutes les fois, hein, mais la cour impériale de Chine qui veut plus qu'il parte. Et bref, au bout d'un moment, ce monsieur ne s'est pas découragé. En fait, il a tenté d'aller au Japon entre l'année 743 et l'année 748. Et puis, c'est seulement finalement 10 ans plus tard qu'il y parvient enfin. Alors, qu'est-ce que ce monsieur Ganjin allait faire dans cette galère? Dans cette jonque, en l'occurrence, je suppose qu'il y avait déjà des jonques à l'époque. Je ne suis pas tout à fait certaine, c'est très compliqué l'histoire des bateaux. Là. D'ailleurs, ça c'est une chose que je dois absolument apprendre, excusez-moi, je raconte ma vie. Mais j'arrive un peu au 16e siècle, où c'est vrai, là pour l'instant, je travaille plutôt sur le 16e siècle, où il y a toutes sortes de bateaux, entre les nefs, les caravelles, les jonques, qui circulent dans le monde entier. Et franchement, il va falloir que je me lance là-dedans, ça me fait un peu peur. Entre les voiles et les non-voiles, les coques rondes et les coques carrées. Donc, c'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose en histoire, c'est toujours très compliqué. Les jonques, je ne sais pas exactement au 8e siècle, en tout cas les bateaux, c'est sûr, là, c'est compliqué de parler en histoire sans faire de contresens. À tout moment, on peut en faire des anachronismes. Ce monsieur. Alors pourquoi je parlais du bateau? Ah oui, parce que je parlais de galère. Ah oui, voilà. Donc, ces galères, oui, qui devaient exister quelque part dans le monde à cette époque, mais je ne sais pas s'il y en avait vraiment, je pense pas qu'il y en ait dans l'Asie orientale, hein, donc avec les rameurs et tout ça. Je ne sais pas pour les gens. Mais plus sérieusement, parce que là, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter, pour paraître toujours bien sérieux, et puis d'autre part, pour ne pas perdre de temps. Donc, Ganjin, entre 43 et 48, fait des tentatives, arrive 10 ans plus tard au Japon. Qu'allait-il faire au Japon? Il allait, en fait, à la demande de la cour, on va plus l'appeler la cour du Yamato, en fait, on est dans les années 750, là, on est dans la cour de Nara. Donc, il allait à la demande de la cour de Nara, nouveau nom de la cour de Yamato, il allait à la demande de la cour de Nara dans l'archipel pour enseigner aux Japonais tout ce qu'il fallait pour que cela puisse ordonner correctement leurs bonzes, ordonner l'ordination. Donc ça veut dire en fait les faire passer par cette cérémonie dont on a parlé, je crois, une ou deux reprises, et qui vous fait obtenir le statut de clerc. C'est-à-dire, vous n'êtes plus un laïc, vous avez une sacralité particulière, et tout ceci ne se fait pas sans rite. Et au Japon, en fait, on est au 8e siècle, ça c'est important pour l'histoire du bouddhisme quand même. On a vu qu'au 6e siècle, je répète, vous inquiétez pas, ne cherchez pas à droite et à gauche, je vais répéter. On a vu qu'au 6e siècle, donc, le bouddhisme apparaît de façon officielle, on va dire, lors d'un échange diplomatique entre Kudala et la cour de Yamato. Et là, je suis en train de vous apprendre que deux siècles plus tard, on ne sait toujours pas, pour vous dire à quel point le bouddhisme a quand même mis du point, du temps. On va prendre une pause, ne vous inquiétez pas, on va prendre une pause dans 5 minutes. A mis du temps à s'installer au Japon, c'est que deux siècles plus tard, on ne sait pas ordonner correctement les bonzes, et la cour de Nara, la cour japonaise de Nara, envoie donc deux délégués donc en Chine pour solliciter physiquement, donc on va le voir, et on demande à Gangjin, qui est un spécialiste du bouddhisme, qui est un moine, en fait, de venir au Japon. C'est pour ça qu'il a aussi persisté. C'est-à-dire qu'en fait, il était aussi sollicité par les Japonais, donc apprendre aux Japonais comment organiser les cérémonies d'ordination. Donc sur Gangjin, voilà, alors il arrive, donc on va peut-être prendre la pause juste après Gangjin. Il arrive donc assez vieux, si vous regardez ses dates de biographiques, lorsqu'il arrive dans les années 50, il a déjà près de 66 ans. Il arrive également aveugle, c'est assez connu, donc il arrive vieux, aveugle, mais une fois installé au Japon, remplit la tâche qu'on lui a demandé d'exécuter, et donc permet de faire progresser donc, les rites officiels du bouddhisme dans l'archipel. Juste un mot à propos de son bouddhisme à lui, même si vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez plus tard, il fait partie de l'école Lidzu. Une école assez minoritaire d'ailleurs, on verra un peu pourquoi, plus tard lorsqu'on présentera ce bouddhisme, ce premier bouddhisme japonais. Voilà, il fait partie de l'école du Lidzu, très attaché au rite, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce monsieur et pas quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous laisser, donc il est 27, je vais vous laisser 4 minutes exactement pour souffler un peu.
4 minutes, c'est trop long.
Non mais, allez, enseigner les cérémonies.
Ah ouais, les gars.
Organiser quoi ?
Non, oui, c'est toujours.
Elle me fait trop marrer, elle me dit ah, je fais plein de choses, mais tout est froid, c'est pas grave.
Mais il est trop marrant.
En son cours, il y a le brouillon quand même.
Non.
Moi, je trouve. Enfin bon, moi, je suis perdu.
Je suis plus perdu en cours avec les
espoules. Ah non, les espoules, c'est mieux.
Non, non, avec lui, c'est brouillon.
Je sais pas, moi c'est totalement...
Non, on va dire que c'est pas brouillon, mais lui, tout est direct sur un papier, donc c'est juste à lire.
Au moins, lui, il fait des anecdotes, tout ça. Enfin, moi, je sais pas, je pense à lire.
Ouais.
Alors que elle est
un peu...
Je sais pas, elle est un peu invasive.
Bah, c'est mieux, au moins, elle... Les gars, t'as...
J'ai envie de confiner et tout.
C'est vrai, ouais, c'est... Je sais pas,
je comprends pas.
Faut qu'on se complète alors.
Toi, t'as lu le bouquin, t'as mieux compris que moi j'ai pas lu.
Ouais, c'est vrai, mais même avant, ça me faisait quand même.
Quand j'avais lu le bouquin. Ouais, mais oui. Parce que t'as pas lu l'histoire du Japon.
Ouais, c'est l'histoire du Japon qui parle de ça. Parce que moi, il faudrait que...
Ah non, mais l'histoire du Japon, il parle de tout. Il parle de là...
Et de surtout de ça, là.
Est-ce qu'il y a une partie sur... Il zappe un peu les Kofun.
Les tanks, là, les tanks.
Il parle de il parle une seule fois des Kofun, donc tout à l'heure, on en a parlé au moins... On en a fait un cours des Kofun.
Il faut que je fasse ça pour après ce soir, parce que c'est bon.
Ah, franchement, je vais dire je vais prendre le point de vue.
Ouais, il faut que tu le lises, comme ça tu comprendras mieux ce qui... Mais c'est le problème, c'est que c'est vers la fin.
C'est pas grave, parce que moi, j'ai pas compris le début, moi.
D'accord.
Avec l'autre.
D'accord, mais...
Moi, j'ai vu qu'il y avait des schémas.
Ben, lis ça, tu comprendras mieux Nespoules, après. Et après, attaque le deuxième tome et là, tu seras dans le cours. Mais en plus, moi j'apprécie bien parce que c'est ce qu'on a fait en méthodologie aussi.
Il a des chemins,
il a parlé de théorie et tout ça.
Je prends le tome 2 après. Il y a des couilles derrière.
Non, c'est pas bien.
Ah non, ouais.
C'est un recommandé. Mais les livres du Japon sont à l'église.
La pauvre.
Je sais pas,
tu m'as
commencé à me rendre.
Non, je peux pas. Là, je suis
pas.
Un bon tapis par le Japon.
Non. Alors,
je ne connais rien, j'ai arrêté.
Il me reste une chose à vous dire sur ces relations dans le cadre des ambassades, et puis ensuite nous passons donc à cette description de cet état d'un site nouveau que notre comte de Yamato va imaginer pour mieux donc s'affirmer dans l'archipel. Juste, donc cette alerte est un peu vague parce qu'on n'a pas de notion très précise vers 760, voyez-vous, donc toujours dans ce 8e siècle, pas vraiment dans le cadre de ces relations diplomatiques, mais pour effet premier de ces relations diplomatiques entre la Chine et le Japon, une impératrice, c'est-à-dire là on peut dire Tenno, Kōmyō Tenno, bâtit pour son défunt époux, dont on reparlera plus tard parce que ce monsieur est important dans l'histoire du bouddhisme notamment, Shōmu Tenno, donc elle c'est son épouse, Kōmyō Tenno, épouse de Shōmu Tenno, vous n'oubliez pas les voyelles longues dans vos devoirs, hein, c'est essentiel, Kōmyō et donc Shōmu, Kōmyō épouse de Shōmu Tenno, bâtit pour lui un monument, une institution qui en fait est très célèbre dans le Japon contemporain. Et puis quand on va faire du tourisme à Nara, puisque là en fait au 8e siècle on est à la période de Nara, on ne manquera pas, les Japonais ne manqueront pas de vous en parler, c'est le très fameux donc Shōso-in. Elle construit, donc Kōmyō Tenno construit pour son mari qui est déjà mort à l'époque, hein, où elle le construit, il est déjà mort. Elle construit donc le Shōso-in. D'abord, je dis ce que veut dire Shōso. Donc, il est à Nara, dans la ville de Nara. In comme lieu, ouf. So comme entrepôt, magasin. et Shaw comme principal, donc le lieu où se trouve un magasin ou un entrepôt principal. En fait, vous imaginez une bâtisse, à l'époque en bois forcément, hein, je vous ai dit que tout ce qui était construction traditionnelle en Chine, à Changhang et au Japon, est en bois. Vous imaginez donc une construction en bois sur des pilotis, parce qu'en fait on se méfiait de l'humidité de l'archipel à ce moment-là, et ça a permis, soit dit en passant, à tout ce qui était conservé dans le Shoshone de traverser des siècles. Maintenant c'est en béton, mais autrefois c'était en bois. Et on construit donc un endroit à Nala, près d'un célèbre temple, où en fait on entrepose, Komio entrepose tout ce qu'elle avait réussi à collectionner d'objets précieux et de textes précieux d'ici ou là, d'ici et là, c'est-à-dire du Japon, de Chine aussi, parfois même d'Asie centrale et d'Inde. Rares sont les objets venus d'Inde et d'Asie centrale. Hein. Beaucoup viennent de Chine, beaucoup viennent du Japon également, mais parfois on a quand même donc certains objets qui viennent de très très loin et qui sont entreposés d'abord par Komio Tenno pour elle avait fait avec son mari, c'est-à-dire qu'elle avait collectionné ces objets donc divers avec son mari, et c'est seulement à la mort de celui-ci qu'elle construit cet entrepôt pour les entreposer. Et de siècle en siècle, je dirais, les Tenno suivants, mais aussi les aristocrates, les gens importants, viendront enrichir cette collection de toutes sortes d'objets et de textes. Donc vous faites la distinction entre les objets et les textes, et c'est ainsi que ce bâtiment, ayant vu le jour en plein milieu du 8e siècle, les agences de tourisme de Nala ou du Japon en général vous présenteront toujours ce Shoshone comme étant le plus ancien musée du monde. Voilà, le plus ancien musée du monde, puisque, et bon, faites attention, hein, c'est, vous mettez vraiment ça entre guillemets, parce que un musée, moi je ne sais pas trop ce que c'est, après il faut définir ce qu'est un musée, je ne sais même pas si c'est une définition légale. Un musée, surtout au Japon, on voit plein de choses qui ressemblent à des musées mais qui ne portent pas le nom de musée. Enfin bon, bref, c'est vraiment une expression pour dire que c'est quelque chose qui tourne autour de l'idée de musée. Alors, je vous le présente parce que ce qui est important, c'est deux choses. D'abord, il est célèbre, comme je vous l'ai dit. Les Japonais en sont assez fiers. Et surtout, un historien français, d'ailleurs, de la première heure, qui s'occupait du Japon, je trouve, a donné une belle formule pour qualifier ce plus ancien musée du monde. Il a dit que c'était comme le terminus, le Shoshone est comme le terminus de la route de la soie. Et je trouve ça assez beau. Donc, je vous rappelle que la route de la soie, c'est une notion un peu générique qui désigne de fait plusieurs routes, souvent c'était plusieurs routes au pluriel, qui passaient par la mer ou qui passaient par la terre et qui reliaient, mais vraiment en deux pôles presque symboliques, hein, parce qu'il y avait plein de coupures et c'était pas toujours direct, c'est le moins qu'on puisse dire, la Chine d'une part à l'Europe d'autre part, en passant par l'Asie centrale, et qui par exemple au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est sur ces routes de la soie que l'on colportait la fameuse soie de Chine. Et donc, en parlant de terminus de la route de la soie, je trouve ça assez émouvant presque, ça relie, bon, mais de façon très symbolique, attention, hein, c'est pas une vérité là que je vous assène, mais c'est un peu l'idée que le Japon n'est pas tout à fait coupé du monde quand même, puisque tout ce qui circulait sur ces routes de la soie, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, d'une façon ou d'une autre, en étant collectionné par Komio et puis les autres Tenno, se retrouvaient, ou bien très concrètement, parce que c'était les mêmes objets, ou bien en termes d'influence, parce que des objets qui étaient produits au Japon ou en Chine étaient influencés par l'art indien ou l'art venu d'ailleurs, et se retrouvaient finalement dans ce terminus-là, c'est-à-dire dans cette ville de Nala, puisque le Japon, c'est vrai, a souvent été assez éloigné de tout. Le Shoshone montre qu'il y avait donc... qu'il y avait quand même un lien entre l'archipel et le reste de la planète. Donc vous avez donc un document numéro 6 juste en... Je vais vous le présenter pour que vous sachiez quand même que dans votre brochure, je vous ai présenté quelques éléments. Donc vous avez un tas de choses, hein, qui constituent les richesses du Shoshone. Donc je vous ai dit de faire la distinction entre les biens et les choses. Vous avez des instruments de musique. Document numéro 6. Alors, vous avez des calligraphies, vous avez... d'abord je vais commencer parce que, vous voyez, vous avez des instruments de musique, comme c'est en anglais, vous pourrez, si ça vous intéresse, jeter un coup d'œil plus précis. Vous avez des bols, vous avez des récipients, vous avez des calligraphies, donc je disais, vous avez des armes également, vous avez des parfums qui sont conservés, et vous avez donc également des choses comme des peintures. En fait, vous avez tout ce qui représente la civilisation asiatique, donc de l'époque. Et pour vous dire à quel point, donc à la fois cette appellation de plus vieux musée du monde est à la fois fallacieuse, c'est-à-dire fausse, et vraie. Elle est vraie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc le Japon recèle quelques trésors quand même du patrimoine humanitaire en ce Shosoin, mais ce n'est pas vraiment un vrai musée parce que n'ont accès à ces textes ou à ces biens que des chercheurs en très petit nombre. Par exemple, je crois que les gens du Shosoin n'ouvrent, enfin ça j'en suis certaine, mais les gens du Shosoin n'ouvrent leurs portes qu'en certaines périodes de l'année, je crois que c'est le mois d'octobre-novembre environ. Et si vous êtes un chercheur, il faut vraiment être quasiment... Donc là, c'est les oui-dire que je vous raconte en tant qu'historienne, que je ne trouverai ça dans aucun manuel, mais il faut être quasiment estampillé par la maison impériale pour avoir accès en tant que chercheur, donc pouvoir étudier ce qui se conserve dans ce Shosoin, tellement donc ces choses ont de la valeur et tellement surtout les Japonais ne veulent pas, enfin comme nous on le fait aussi, hein, ne veulent pas mettre sur la place publique leur richesse patrimoniale. J'ai parlé de textes, juste une chose sur les textes, donc vous avez on parle de 10 000 textes. Donc 10 000 textes, faites attention, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'on ne sait pas si ce sont des textes avec des feuilles, enfin c'est à la fois des textes donc, qui ne comportent qu'une seule feuille, qu'on peut comptabiliser comme tel, mais ça peut être aussi également des rouleaux de plusieurs mètres, donc évidemment, texte, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 10 000 textes, c'est ce que disent donc les pamphlets touristiques, c'est une manière de vous dire qu'il y a pas mal de choses, et ils ont une utilisation, donc hier, ça ne les a pas trop, moi, ça ne les a pas trop, les étudiants... je veux dire que ça devrait un peu passer par-dessus un peu la tête, mais ce qui est intéressant, c'est que, par principe, donc, Komyo, les autres Tenno et les aristocrates ont conservé des choses qu'ils jugeaient précieuses à l'époque. Par exemple, des sutras bouddhiques, donc des textes bouddhiques, bien calligraphés, avec lettres d'or, etc., dessins. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y avait des choses encore... Enfin, que ces papiers, donc ces documents écrits, qui étaient donc sous forme de papier, bien souvent. Ce papier était tellement précieux à l'époque, au 8e, 9e siècle, que bien souvent on a écrit derrière des choses aussi bêtes que la comptabilité de comptable, la comptabilité de fonctionnaires qui relevaient donc combien de quantité de riz avaient pu percevoir sur les paysans, enfin des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le contenu religieux du recto. Et en fait, donc ces documents bien souvent écrits sont doubles. Enfin, pour nous autres historiens, d'un côté, vous avez ce à quoi ils étaient destinés à l'origine, à savoir l'énonciation de je ne sais quelle parole de Bouddha. Et puis de l'autre côté, vous avez les comptes de l'administration, donc des codes dont on va parler là maintenant, qui n'a rien à voir avec... rien à voir avec des propos religieux et qui, nous autres, historiens, nous intéresse bien parce qu'on peut avoir donc un tas de renseignements très pratiques sur la civilisation du Japon au 8e et 9e siècle. C'est amusant. Enfin, pour moi, c'est amusant. C'est comme si vous aviez, en fait, le texte de la Bible, voyez-vous, bien imprimé, fin 15e, début 16e, avec de belles lettres d'or, des beaux... comment on appelle ces premières lettres-là qui, des belles enluminures, et puis derrière, vous avez les baillis ou les sénéchaux de je ne sais quel roi de France qui écrivent qu'ils ont taxé de temps le jour et la nuit, et des documents donc drôlement précieux quand même, auxquels on n'a pas si facilement accès, donc plus anciens peut-être, musée, c'est vraiment une autre affaire. J'ai vu une ou deux mains se lever, mademoiselle et monsieur, et puis ensuite je passe au point 2. Oui. Oh oui, alors sans doute, mademoiselle, mais là, très franchement, comme je n'y ai jamais mis les pieds, c'est pas là-dessus que... là, je ne peux pas vous dire, sans doute. Une classification entre les différents types de... Ah, je ne sais pas. Là, il faudrait que vous demandiez... cadeau empoisonné pour ma collègue, mais je fais de la pub pour ma collègue, je le dis chaque année, hein. C'est pas évident dans ce monde universitaire. Allez donc voir madame Lady Ribauer, qui est la spécialiste de l'histoire de l'art ancien, qui pourra peut-être vous dire comment on classe à l'intérieur du Shosoin, depuis les origines, tous ces objets. J'en sais strictement rien, je sais pas si ça va être mis dans des boîtes, je sais pas, mais je sais pas, parce qu'il aurait fallu que je mette vraiment mon nez là-dedans, donc c'est trop spécialisé pour moi. Voilà, monsieur. Comment on a pu garder ça à travers les siècles, malgré le déclin de l'institution impériale, parce que je vais vous le dire mille fois, l'institution impériale reste le phare pendant des siècles, et que ça ne coûte rien de garder. de rien. Donc il n'y a aucune raison pour que ça disparaisse. C'est vrai qu'on aurait pu concevoir qu'elle dévende, peut-être la qu'elle fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne coûte rien, donc quel que soit le déclin économique. Et vu l'importance de l'institution impériale sur le plan idéologique au Japon, c'est pas très étonnant, finalement. Il n'y a pas de contradiction. Et j'y vais. Oui, oui. À ma connaissance, non. Non, mais c'est un peu la question de monsieur. À ma connaissance, non. Ben, non, si c'est considéré comme trésor de stature impériale, il n'y a aucune raison de le faire. Les empereurs n'ont jamais été, vous le verrez, quand les samouraïs apparaissent au 12e et plus tard, on a toujours le moyen de dégager de la scène, je dirais, historique, on n'a jamais fait. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner que les choses restent comme ça. Soit donc reste sacré en quelque sorte. Mais il est possible qu'il y ait eu quelques trafics, là, comme partout. Ça, comme partout. Bon, alors, 2-1. Non, 2-2. 2-2. 2-2. Alors, vous allez reprendre votre brochure. On va commencer par faire le point. Donc, je dirais qu'à partir du 8e siècle, en un mot, l'essentiel, c'est que l'état du Yamato mute en un état des codes. Voilà. Que cet état des codes, donc on ne dit plus Yamato Kokka, on va dire Litsuryo Kokka. Donc les historiens disent, plus de chance, Litsuryo Kokka. Donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos, c'est bien cette cour que l'on appelle aujourd'hui du Yamato, qui prend de nouveaux habits, de nouveaux atours, et qui change à tel point que finalement les historiens préfèrent lui donner un autre nom. Donc c'est bien le même Uji, les mêmes Uji qui dominent, qui se retrouvent donc à la tête d'un état nouveau que nous autres appelons donc le Litsuryo Kokka. Kokka comme état, état, Kokka, au sens contemporain du terme, et donc forcément un peu anachronique, mais peu importe. Mais c'est vrai, il y a une véritable avancée, donc là je suis un peu moins réticente. Kokka pour état, Litsuryo comme terme générique pour désigner des codes. Donc je parlais d'état des codes, état du Litsuryo. Alors en fait, il faut distinguer deux types de codes, parce qu'à l'époque, Litsu et Lyo faisaient la distinction entre, d'une part, tout ce qui relevait du pénal, c'était donc les Litsu. Un Litsu, c'est un code pénal, c'est-à-dire, fondamentalement, un ensemble de règles écrites qui énumèrent un certain nombre de sanctions. Voilà, des sanctions, des punitions, des condamnations. Donc c'est la pénalité. Alors, pour vous donner deux ou trois exemples de base, je dirais, avant de vous dire que ça vient de Chine, etc., je vous explicite juste ce que signifie Litsuryo Kokka. Bien sûr, tout ça vient de Chine. Hein. Mais je vous donne donc ce qui se fait en Chine, et donc, par définition au Japon, à partir du moment où on importe ces Litsu. Ça peut être par exemple, tiens, j'ai appris un mot hier, bastonnade, bon, classique, quoi, châtiment physique. Bastonnade, c'est pas... vous faites attention, hein, ce n'est qu'un châtiment physique parmi d'autres. Vous en avez de toutes sortes qui n'ont pas forcément été appliquées au Japon, c'est bien passant. Hein. Vous avez bien sûr, premier châtiment physique, la peine de mort. Ça, c'est universel, sauf chez nous, quoi. C'est pas une critique, hein, il y a que nous autres en Occident, que depuis 50 ans, on n'applique plus la peine de mort, mais c'est une extraordinaire chose sur le plan historique. Hein. Attention, je parle en tant qu'historienne, bien sûr. Extraordinaire chose. Donc, la peine de mort, bien sûr. Suivez-moi jusqu'au bout, que je ne fasse pas sur 4 secondes. Vous avez également, donc, chose plus exotique, je dirais, vraiment exotique, dans le sens où nous autres, ça nous paraît pas grand-chose, mais c'est fondamentalement troublant pour les gens de Chine ou du Japon. Vraiment troublant. Je vous donnerai des exemples dans les cours suivants. L'exil. Comme châtiment, le fait d'être exilé. Vous sortez de votre province, les 60 et quelques provinces, donc la province où vous êtes installé, vous avez vos parents, vous avez votre fonction, etc. Vous en sortez, enfin, parce qu'on vous demande, on vous exile, on vous bannit. Ça, c'est vraiment troublant. Et donc, pour moi, c'est exotique, parce que moi, si on sortait de Paris, par exemple, et qu'on me mettait à l'autre bout du monde, bon, évidemment, je serais peut-être triste, mais je me dirais tant que tant que je suis en vie. Mais en fait, à l'époque, on est dans d'autres univers, évidemment, humains. Donc, l'exil, vraiment, prenez donc la peine de réfléchir. réfléchir et de vous détacher de votre monde contemporain, c'est quelque chose de très grave à l'époque. Voilà, donc entre les bastonnades, la peine de mort, l'exil et d'autres choses comme privation de certaines fonctions, etc. Voilà ce que les Lidzu décident. 1. Liu. Donc Liu. Alors Liu, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les codes Liu décident un tas de choses que je ne saurais résumer en un seul mot, qui concernent à la fois donc, le patrimoine, qui hérite de quoi, comment, dans quelles circonstances, à quelles conditions, etc. Donc les terres, comment on fait pour se les transmettre de génération en génération. Donc ça peut toucher le patrimoine, ça peut toucher les relations familiales, les relations entre les pères, les fils, les frères, les époux, etc. Ça peut toucher tout ce qui concerne l'administration également, qui peut avoir telle fonction, tel rang. Enfin bref, quoi, ça touche d'autres facettes, donc c'est pas pénal, enfin c'est pas négatif, je dirais, et ça concerne un tas de pans de la réalité sociale de cette époque. Ce qui veut dire que, donc avec ça j'espère que vous avez compris l'importance, de cette cour de Yamato qui adopte des Lidzu Liu chinois, ce qui veut dire que là on est loin du modèle de Shō Tokudaishi qui, je vous l'avais dit, donc avec 17 articles en fait, contrôlait pas grand chose de la situation quand même, hein, c'était donc c'était assez abstrait, et puis en plus ça s'adressait à une élite, garder l'unité, révérer les trois trésors, bon très bien, on lisait ça doctement, sans doute en japonais, et puis ensuite on pouvait continuer sa vie de bé et d'uchi. Là, la prétention de la cour de Yamato à partir du 8e siècle, en empruntant ces Lidzu Liu chinois, c'est de régenter des pans entiers de la vie des gens de l'archipel. Et donc, déjà là, vous voyez qu'on passe à un autre cran, je dirais, de cet état où là, vraiment, on a beaucoup plus d'ambition et peut-être plus de chances de dominer donc toute cette population. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, avant de rentrer un peu dans les détails, on va terminer le cours par des choses très concrètes. Donc ce nouvel état qui adopte bio à la chinoise, enfin chinois même carrément, ce nouvel état, en fait, où est-il situé, déjà concrètement, où il est, d'où il gouverne, et à partir d'où, en fait, applique-t-il ses codes Lidzu dans l'archipel. Donc, on va faire une étude des documents 4 et 5 de votre brochure, et puis je pense que ça va nous prendre les quelques minutes qui nous restent. Alors, vous allez faire des allers-retours entre le document 4 et 5. Et enfin, c'est moi qui vais faire des allers-retours, vous me suivez. Donc, tantôt j'irai dans un document, tantôt j'irai dans l'autre. Et c'est une idée importante que celle de savoir en fait où ces gens. Alors, on dira plus. Là, vous allez comprendre qu'on va plus dire du Yamato très vite, parce qu'ils ne seront plus dans la région donc, du Yamato, ils vont déborder. Et puis, c'est important aussi pour vous d'avoir un point, enfin, sur l'établissement des principaux lieux politiques du Japon, puisqu'on va voir qu'en fait, ce dont je vais vous parler là tout de suite sera valable en gros jusqu'au 19e siècle. Alors, on va reprendre un peu ce que nous savons déjà. Vous regardez la carte qui se trouve au document numéro 5, et vous voyez donc cette espèce de triangle par lequel j'ai représenté la région d'Asuka, donc dans la province Kuni du Yamato. Donc dans la région d'Asuka, vous le savez, les souverains, je vous l'avais dit, jusqu'à ce que Tenmu Tenno ait l'idée de fixer les capitales, en fait, passent leur temps à changer donc de lieu. Je ne vous avais pas dit pourquoi, il est temps de vous dire pourquoi. Jusqu'au 7e siècle, jusqu'à l'extrême fin du 7e siècle, on passe son temps à changer de lieu. D'abord, sachez qu'on passe, donc on change de lieu à la mort d'un souverain. Plus particulièrement à la mort d'un souverain. On attend qu'un souverain, donc un Ōkimi, décède, et à partir du moment où il décède, donc on change de lieu. On a avancé plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre, donc c'est écrit nulle part, hein. Alors c'est ce que je vous ai dit de ces archéologues et historiens des temps anciens qui sont bien obligés de faire marcher leur méninge, parce que bien souvent des choses essentielles ne sont pas écrites, c'est évident pour les gens de l'époque, mais c'est tellement évident qu'ils n'en laissent pas de traces, et donc du coup nous on est obligés de reconstituer les choses. Deux hypothèses. La première, c'est qu'on change de lieu, donc la cour du Yamato passe son temps à changer de lieu, de la fin du 4e jusqu'au 7e siècle, parce que la mort d'un souverain, c'est-à-dire du clan du Uji dominant, est considérée comme une souillure, et que le souverain donc, qui prend la suite ne veut pas rester sur le lieu souillé par la mort de son prédécesseur. Voilà. Alors, on vous parlera de Shinto, mais on verra ce que veut dire le Shinto. Faites attention, hein, parce que le Shinto, en fait, stricto sensu, ça n'existe pas avant le 8e siècle. Alors, allez parler de Shinto, de religion Shinto, pour toute cette période, 6e, 7e. C'est très délicat, en fait, de rien, c'est assez délicat. Vous comprendrez un peu plus tard ce que je vous raconte. Donc, Shinto, avec une interrogation, si vous devez mettre donc cette explication Shinto, on n'aime pas la souillure. La souillure, c'est classiquement dans le Shinto, tout ce qui est lié, donc il y a beaucoup de choses hein, qui terminent la souillure, mais tout ce qui est lié à la maladie, au sang, à la mort, bien sûr, c'est classique, hein, et donc la mort d'un souverain, d'un prédécesseur, pousserait donc ses successeurs, son successeur à aller s'installer ailleurs. Pourquoi pas ? C'est la première hypothèse. Donc c'est assez classique et traditionnel. Deuxième hypothèse, pour expliquer donc jusqu'à la fin du 7e siècle, on change constamment de lieu dans cette période d'Asuka, c'est l'idée que bon, c'est moins exotique, c'est plus terre-à-terre, c'est pas du tout contradictoire avec la première hypothèse, c'est l'idée qu'on change de souverain, donc le successeur veut tout simplement changer de lieu de pouvoir pour montrer une nouvelle ère qui s'ouvre avec lui. Bon voilà. Donc là-dessus, on ne va pas y ergoter pendant des heures. Voilà donc les deux seules choses qu'on imagine pour expliquer que ces gens-là passent leur temps à changer. Et vous le savez, Tenmu, Tenno, sans doute pour paraître plus chinois, plus civilisé, conçoit l'idée d'une capitale fixe qui ne se réalisera donc qu'après sa mort, 694, vous le voyez donc, vous avez déjà pris en note, je crois, cette date, et vous le voyez sur vos documents, 694 est la date à laquelle, enfin, le Japon, donc les souverains de la cour du Yamato, se fixent quelque part. À Fujiwara. Vous verrez que dans les documents que je vous présente, vous avez donc un toponyme, le lieu de la capitale, Fujiwara, Kyo, Nara Kyo, Heian Kyo, que revient donc souvent ce mot de Kyo qui veut dire capitale, au sens de capitale impériale. D'accord ? Donc Fujiwara Kyo, c'est la capitale, sous-entendu impériale, de Fujiwara. Et donc en 694 jusqu'en 710, on dit que c'est la première capitale fixe du Japon parce que c'est la première fois que les souverains. En l'occurrence, là, on peut dire déjà presque, enfin, on peut dire les Okimi, pardon, les Tenno. C'est la première fois que les Tenno, en fait, se succèdent dans le même lieu. Donc la mort des prédécesseurs ne pose pas de problème et on continue à régner là où le prédécesseur l'avait fait donc avant soi. Donc là, il y a trois Tenno qui se succèdent à Fujiwara entre 694 et 710. Alors, je vais pas trop vite, là, c'est bon, parce que j'aimerais quand même terminer ce point. Ça va, je vais pas trop vite. Bon, alors, ce qui est vraiment intéressant, bien sûr, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on commence à se fixer. Mais d'abord, il faut que vous compreniez qu'on ne se fixe. Bon, on a l'idée, d'abord, qu'on ne réalise pas, première étape. Ensuite, on a une idée qu'on réalise, mais très peu de temps, de 1894 à 1710, ça fait à peine une quinzaine d'années. Et puis ensuite, vous allez voir que finalement, l'idée fait son chemin, mais vraiment petit à petit. Que d'abord on a l'idée, on ne réalise pas, ensuite on réalise, mais très peu de temps, le temps de trois souverains d'ailleurs, qui n'ont pas duré longtemps, enfin qui n'ont pas régné longtemps, et puis après, effectivement l'idée se fixe, mais pas pour longtemps non plus, mais pour plus longtemps quand même, donc c'est avancée progressive, 710, 784, donc ça c'est une flèche, hein. De 710 à 784, l'idée à nouveau se fait jour. En 710, on a quand même donc rompu cette stabilité, bien sûr. Hein. On a rompu cette stabilité parce qu'on n'était sans doute pas très habitués. Mais à partir de 710, on renouvelle cette idée qu'il faudrait plutôt une capitale fixe. On s'installe à Nara. Donc Nara qui se trouve dans la province de Yamato, justement, Yamato no Kuni. Et vous savez tous où est Nara, donc je ne vais pas vous faire un point. En plus, il se trouve que ça doit être bien... Ah oui, justement, il faut quand même que je vous dise. C'est le point numéro 3, donc de la carte. Le nom chinois de Nara, c'est Heijo-kyo. Donc dans les manuels, vous trouverez aussi bien Nara comme mot pour désigner cette capitale fixe de 710 à 784 que Heijo-kyo, capitale de Heijo. Alors, juste pour Nara... vous regardez la frise chronologique. Maintenant, regardez la frise chronologique. Donc, vous êtes en 710. Regardez la frise chronologique à partir de l'année 710. Donc vous n'êtes pas étonné de voir qu'avant Nala, 694, 710, c'est Fujiwara, d'accord ? Ensuite, 710, on change, parce qu'on a quand même juste 15 années, je dirais, d'habitude derrière soi seulement. Et en 710, donc, on est censé s'installer à Nala jusqu'en 784. Mais vous remarquez sur votre frise qu'au début, quand même, on change un peu. Dans les années 740, le souverain, d'ailleurs c'était Shomu, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, celui pour lequel Komyo a construit le Shosoin, en fait, on n'a pas tout à fait perdu cette habitude. Vous avez une large phase pendant laquelle, 710-784, on a quand même tendance à s'installer à Nala. Donc, je crois qu'il faut compter 8 règnes quand même d'empereurs à Nala. Mais l'air de rien, il y a quand même des empereurs comme Shomu qui, de temps en temps, déménagent. Donc c'est vraiment pour vous dire que cette tendance à la fixation des capitales se fait de façon progressive au Japon. Progressive. Puisque même Nala, qui pendant 70 ans donc, est la capitale du Japon, l'air de rien, connaît des infidélités de la part de certains souverains. Jusqu'à ce que là, définitivement, de 794 à 1868, et je ne me trompe pas, là, en parlant du 19e siècle, là, il est clair que de 794 à 1868, lorsque le régime des codes est bien établi, etc., nous sommes dans le schéma chinois classique d'une capitale fixe, puisque Heian, qu'on appellera donc à partir du 12e siècle Kyoto, reste la capitale impériale du Japon, donc pendant des siècles et des siècles. C'est comme si nous, on avait eu... Paris depuis, je sais pas, 794-1868, ça fait quoi, 1000 ans? Depuis 1000 ans. Donc on est en combien de 1009? 1009? Ouais, je pense que c'est pas le cas. Donc en fait, c'est... Oui? Toujours.
C'est cute.
Excusez-moi.
Oui?
Oui, moi, ça me dirait...
Fukuhara en 185, c'est un écart à la règle. Je vous expliquer pourquoi. En plus, ça a été très mal perçu, ça a été très mal perçu, ce changement en 185. Bon, je m'aperçois qu'en fait, il est 7h, que vous êtes fatigué, que je suis fatiguée, que je suis fatiguée, même si on n'était pas fatigué tout à l'heure, et que la prochaine fois, je reprendrai à l'idée pourquoi cette fixation des capitales. Voilà.